Midi 1. Mariam, matin famille.
Et merci à vous de votre fidélité, merci à vous de nous rejoindre. Nous sommes ensemble et en direct et on va prendre le vol direction Bruxelles ce matin. Bruxelles où on retrouve notre coach en développement personnel et professionnel, Nisrine Achak. Bonjour.
Bonjour Mariam, bonjour les auditeurs et auditrices.
C'est un plaisir de vous recevoir ce matin sur les ondes de Midi 1.
Plaisir partagé.
Alors, on parlera aujourd'hui, et je l'annonçais en tout début d'émission donc, on parle de comment accompagner son cycle de deuil, justement grâce au coaching, la disparition d'un proche qui est toujours pénible, ce processus de deuil qui peut être long et assez complexe. Alors parfois, un accompagnement reste essentiel afin de pouvoir vivre dans le présent et surtout aller de l'avant. Alors d'abord, Nisrine Achak, comment peut-on définir tout simplement le deuil ?
Eh bien, en quelques mots, le deuil, en fait, il s'agit de la perte d'un être cher, d'un proche, et c'est la douleur et le chagrin qui en découlent de cette perte définitive. Et souvent associé à la souffrance, le deuil est aussi considéré comme un processus nécessaire de délivrance, qu'on nomme aussi la résilience. C'est un processus actif, d'ailleurs on dit, faire le deuil. Et l'individu en deuil peut sembler parfois souffrir d'un état dépressif plus ou moins intense, mais un cheminement intérieur se fait, et dans un premier temps, il n'est donc vraiment pas simple de distinguer ce qui en est positif pour la personne, vu qu'il cause chez l'individu des séquelles psychologiques.
Quelles peuvent en être les différentes étapes ? On parle souvent de ces fameuses étapes, donc est-ce qu'on peut parler d'étapes finalement ?
Oui, bien sûr. Alors, surtout en coaching, on travaille avec la courbe d'Elisabeth Kobler, qui était une psychiatre qui travaillait en souffrance dans les années 60, et elle avait justement développé un modèle sur base de 5 étapes, et puis ça a été adapté à 7 étapes. Alors ces étapes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont légitimes et normales, et elles sont plus ou moins longues selon les individus. Elles permettent de donner des repères structurants pour mieux vivre le processus de deuil et pour se rassurer sur son état général face à cette perte. Parce que beaucoup de personnes ont l'impression que c'est pas normal ce qu'ils traversent, etc. Alors la première étape, eh bien, c'est le choc à l'annonce de la nouvelle. Cette étape, elle est souvent de très courte durée. Toutefois, elle peut être plus longue que chez certaines personnes. Il s'agit d'un état de sidération face à l'annonce de la perte, surtout lorsqu'il s'agit d'un décès soudain. Et le choc est tellement brutal qu'on se met dans un état de pilote automatique. Donc c'est comme si la personne était anesthésiée émotionnellement. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui est salvateur dans cette période-là, parce que c'est ce qui va permettre à la personne endeuillée d'organiser les obsèques.
D'accord.
Ensuite vient le déni. Et le déni, en fait, il s'agit de refuser de croire à l'annonce de la perte. On refuse d'entendre, de comprendre, ce qui entraîne souvent une contestation et un rejet de l'information, d'autant plus que parfois, la personne endeuillée a encore la voix du défunt en tête, elle sent encore son odeur sur ses vêtements, elle a encore les photos qui traînent à la maison, etc. Et puis s'ensuit, avec la prise de conscience de la réalité de la nouvelle, eh bien la colère. Et c'est la troisième étape.
D'accord.
C'est là où la personne va se révolter contre ce qu'elle ressent comme une injustice. Elle peut trouver un exutoire en désignant un responsable. C'est une étape extrêmement douloureuse et délicate à traverser. Et d'ailleurs, c'est là où il y aura de fortes contradictions internes. Donc, il y aura des accusations, des sentiments de culpabilité. Particulièrement, si la personne a l'impression de ne pas avoir su sauver le défunt. Par exemple, lors d'une maladie, que il faut faire toutes les démarches, faire appel à différents traitements, mais qu'elle n'a pas su sauver cette personne. Il s'agit d'une attitude souvent agressive envers soi-même ou envers son entourage. Et puis, la personne est tellement frustrée qu'elle va rentrer dans une étape de marchandage. Elle va commencer à marchander le retour du défunt en ayant, par exemple, des pensées magiques comme, par exemple, si je fais ça, eh bien, la personne va revenir. Et puis que quand la personne va concrètement comprendre qu'en fait, la personne ne va pas revenir, eh bien, il y a la tristesse qui s'installe. C'est la cinquième étape. Eh bien, elle rentre dans un état de désespoir, d'effondrement. Elle devient dépressive. Elle est incapable d'affronter le quotidien. Elle devient passive. Elle ne voit aucune issue à sa souffrance. Et cette phase du deuil, si elle stagne trop longtemps, ça doit vous alerter sur un éventuel état pathologique. Et là, il faut absolument faire appel à un médecin ou à un psychologue pour diagnostiquer. Parce que des fois, le deuil peut être compliqué. Et là, ça peut engendrer de graves maladies sur notre santé.
Oui.
Et puis on passe à l'étape de la résignation. C'est l'étape qui est caractérisée par l'abandon d'une forme de lutte, par l'espoir de retrouver sa vie comme avant, malgré la situation. Cette étape, la personne n'arrive toujours pas encore à se projeter dans l'avenir. La personne en endeuillée, elle vit vraiment au présent, au jour le jour, et tente d'accepter quelque chose d'inéluctable. Et puis enfin, vient l'étape de l'acceptation et la reconstruction. Et cette étape, elle est marquée par l'acceptation réelle de la perte et le fait d'être plus objectif sur ce qu'elle a vécu avec la personne perdue. Elle idéalise moins la personne décédée ou leur relation. Et généralement, c'est à cette étape qu'on fait le point sur les bons et les mauvais moments et qu'on peut tout doucement se projeter vers l'avenir et qu'on se sent mieux psychologiquement et ainsi se reconstruire à son rythme, réorganiser sa vie de façon la plus adaptée possible avec la perte qu'on a subie. Et à cette étape-là, on parle généralement d'un processus de résiliation active. Alors, ce qu'il faut absolument retenir par rapport à ces différentes étapes, c'est que il n'y a pas d'ordre précis. Il peut y avoir des allers-retours. Par exemple, une personne peut très bien avoir vécu différentes étapes, par exemple le choc, le déni, la colère, et arriver à la tristesse. Et puis, de nouveau, l'étape de la tristesse lui semble tellement douloureuse qu'elle revient sur l'étape du marchandage ou de nouveau sur la colère et puis revenir sur la période de la résignation.
D'accord.
Et puis, par exemple, repasser vers la colère et ainsi de suite. Jusqu'au moment où on arrive à l'acceptation totale et qu'on reconstruit notre vie, c'est là où on peut dire qu'on a fait notre deuil.
Alors
c'est que quand vraiment les émotions sont douloureuses, ne sont plus aussi intenses.
Une petite question d'une auditrice qui demande, alors entre la première étape et la septième étape, puisque vous avez parlé de sept étapes, combien de temps ? Est-ce qu'il y aurait une durée approximativement ? Ou c'est cas par cas ? C'est vraiment selon chaque personne ?
Oui, vraiment, parce que chaque deuil est vraiment unique et singulier. Et puis ça dépend aussi des relations qui existaient entre la personne endeuillée et le défunt. Et puis il ne faut pas oublier que le deuil ne dure qu'un temps, mais il arrive qu'il s'éternise en entraînant des troubles psychiques et somatiques. Et c'est à ce moment-là qu'il est recommandé de consulter un médecin. Et puis aussi garder à l'esprit que chez une personne, ça peut durer quelques jours, et chez d'autres personnes, ça peut durer des années.
D'accord.
C'est vraiment très fluctuant et voilà, comme vous avez dit, ça dépend de chaque personne.
D'accord. Alors, ces répercussions au quotidien, Nisrine Achak, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel et professionnel. Quelles peuvent être ces répercussions que vous voyez venir très souvent ?
Eh bien, ça dépend aussi des différentes étapes du deuil. Donc, selon l'étape où la personne va se trouver, il y aura des impacts différents sur le quotidien. Par exemple, prenons, si maintenant la personne se trouve dans la phase de la tristesse, eh bien, cette personne-là elle aura tendance à être dans un état d'inertie, ce qui peut entraîner un impact sur son emploi, sur son comportement avec son entourage. Elle aura tendance à s'isoler, à sembler agacée. Mmh. Et elle aura aussi un impact sur sa santé, c'est-à-dire qu'il peut entraîner des pathologies telles que cardiovasculaires, un AVC aussi. Donc c'est vraiment au cas par cas et selon l'étape où la personne se trouve.
D'accord. Alors, vous avez parlé d'accompagnement qui est parfois reste essentiel, j'allais dire. Comment accompagner justement ces personnes qui sont en plein deuil et quand faut-il les accompagner? Vous avez parlé tout à l'heure de cette phase de tristesse qui dure, et si elle dure très longtemps, un accompagnement donc reste primordial, c'est ça?
Oui, vraiment. Donc en fait, ici aussi, je ne dirais pas qu'il y a un accompagnement standard pour tout le monde. Beaucoup combinent différentes thérapies et tout dépend où en est la personne dans son processus du deuil et
d'accord,
l'intensité de celui-ci. Il peut être envisagé que, par exemple, la personne va combiner différentes thérapies, par exemple chez un psychologue en thérapie systémique et combiner avec un coach de vie. Aussi, il y a des personnes qui font appel à des accompagnements holistiques, donc tout ce qui est émotionnel, parfois aussi à la sophrologie, ça aide énormément. Mm-hmm. La réflexologie aussi aide. La personne peut vraiment combiner différentes étapes et honnêtement, c'est ce que je recommanderais parce que juste une seule thérapie, généralement, c'est très long et on a l'impression qu'on n'en finit pas. Tandis que si on combine plusieurs thérapies, on a l'impression d'aller plus vite, malgré que ça ne soit pas le but. Mais en tout cas, on a l'impression qu'on avance, on se sent plus sécurisé, plus rassuré et on travaille sur différents paramètres, sur les émotions, sur le psychique, sur notre santé. Et par exemple, en coaching, le coach va plutôt accompagner le coaché dans son processus de deuil en lui facilitant notamment le passage des différentes étapes. Mmh. Et par exemple, arriver à l'étape de l'acceptation, la reconstruction, eh bien, va fixer avec la personne des objectifs. Elle va essayer de trouver avec elle du sens à sa vie, à quoi se raccrocher, eh bien, justement, à choisir la vie, tout simplement, au lieu de se laisser aller. Et pareil, dans les différentes autres étapes, en fonction de la personne et de ses besoins, eh bien, elle va essayer d'identifier avec elle ses ressources pour justement passer à l'étape suivante.
D'accord. Alors, on parle souvent de l'entourage également. Quel serait ce rôle de l'entourage, que l'entourage devrait avoir donc face à cette personne qui souffre?
Il est très important d'être bien bien entouré lorsqu'on est endeuillé et accompagner un proche. Ce qu'il peut faire, c'est par exemple lui offrir à cette personne endeuillée une écoute et une empathie. Soyez aussi bienveillant et dans le non-jugement vis-à-vis de cette personne.
Oui.
Et aussi être conscient qu'en fait la personne va devoir passer différentes étapes et qu'il n'y a pas un processus type et qu'il faut accepter que la personne aille vraiment à son rythme. Il faut surtout pas la brusquer ou essayer coûte que coûte de lui faire prendre part de la réalité. Non, il faut vraiment aller à son rythme.
D'accord. Alors, vos conseils, Nisrine Achak, je rappelle que vous êtes coach donc en développement personnel, vos conseils à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui se reconnaissent et qui aimeraient reprendre goût à la vie après donc la perte d'un proche?
Eh bien, tout d'abord, accepter de voir notre vie sous un autre angle et l'aimer avec toutes ses imperfections. Garder à l'esprit que la personne décédée, eh bien, elle est avec nous, elle veille sur nous. Et il ne faut surtout pas qu'il passe visé parce que vous allez continuer à vivre. Dites-vous que c'est ce que votre proche aurait voulu pour vous, que vous soyez heureux ou heureuse. Et n'ayez crainte, personne de toute façon ne remplacera cette personne.
Oui.
Donc choisissez de vivre notamment en donnant du sens à votre vie. Ce qui peut aussi aider, c'est de rêver. C'est important parce que rêver, c'est ce qui vous permettra de continuer en vous fixant justement de nouveaux objectifs, de vous accrocher à la vie et de vivre votre deuil. Vraiment, prenez le temps, soyez indulgent avec vous-même et affrontez un jour à la fois. Et autorisez-vous à demander de l'aide et du soutien que quand vous ressentez cela nécessaire. Et surtout, ne pas cacher vos émotions. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de vous renfermer sur vous-même. D'ailleurs, c'est même sain. C'est très sain et recommandé pour justement pouvoir passer à l'étape suivante. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut. Ne vous justifiez pas. Et
voilà,
s'il y a des personnes qui ne comprennent pas votre deuil, eh bien, écartez-vous-en le temps de votre processus du deuil. Parce que là, vraiment, il s'agit de vous protéger afin que vous puissiez vous en sortir. Là, il ne s'agit pas des autres, il s'agit de vous. Et vous êtes votre priorité. Parce que si vous ne vous en sortez pas, vous ne prenez pas soin de vous, il n'y a personne d'autre qui le fera pour vous.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nisrine Achak. Vous êtes coach en développement personnel et professionnel à Bruxelles, en Belgique. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Média.
Merci à vous pour l'invitation et merci à tous les auditeurs et auditrices.
On vous retrouve dès la semaine prochaine, comme tous les jeudis matins dorénavant. Merci beaucoup et c'est un entretien qui est réécoutable sur notre site median.com.